Et aujourd'hui, nous allons parler d'un type de paysage assez différent de celui que nous avions évoqué lors de la dernière séance du séminaire. C'est un paysage dont on peut se demander s'il est un paysage. En tout cas, on peut choisir de le qualifier comme paysage et toute la discussion portera sur la question de savoir si cette appréhension culturellement stratifiée de l'espace que les Indiens totonaques du Mexique ont élaboré de leur environnement, peut-être conçu comme un paysage ou pas. Alors, j'ai demandé à Nicolas Ellison de venir nous parler. Nicolas Ellison est maître de conférence en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est un spécialiste du Mexique. Et il a travaillé chez les Indiens totonaques, dont il a étudié plus particulièrement les représentations paysagères. En général, d'ailleurs, les formes d'activités techniques et économiques, et la façon dont ces formes d'activités techniques et économiques, dans une période de transition, puisqu'ils sont depuis quelques années très engagés dans la culture commerciale du café, venaient se superposer, quelquefois entrer en collision avec des représentations de leur environnement, qui, vous le verrez, est un environnement forestier, mais en partie dégradé, évidemment. Donc, merci Nicolas de venir nous parler, puis ensuite nous reprendrons la discussion. Alors je rappelle, comme toujours, qu'il y a le cahier ici pour les étudiants qui veulent faire valider le séminaire que je vais donc faire circuler.
Bien. Alors bonjour. Je remercie bien sûr Philippe Descola pour cette invitation. Et le titre de mon intervention est donc « Topologie politique, appréciation non paysagère de l'environnement chez les Totonacs ». Alors dans sa contribution à l'ouvrage « Paysage au pluriel », Gérard Lanclus observait que le paysage est une plaque tournante conceptuelle. Mais il soulignait aussi qu'il s'agit d'un mot problème. Il existe en effet un piège du paysage, du fait de la polysémie même du mot, non seulement dans son usage courant, mais au sein même des disciplines académiques qui traitent du sujet. Et c'est particulièrement le cas en anthropologie, a fortiori lorsque l'on tente de traduire les usages faits de cette notion, notamment quand on tente de traduire l'usage que font les Anglais du mot « landscape », qui n'est que partiellement recouvert par notre notion de paysage. Alors en fait, je vais un peu prendre le contre-pied peut-être de l'esprit général de ce séminaire, non pas sur un plan conceptuel dans mon usage du mot paysage, mais plus par un choix méthodologique, et qui est de choisir dans mon intervention aujourd'hui de limiter l'usage du mot paysage à son acception la plus limitée et la plus restreinte possible, non pas tellement sur le plan conceptuel, mais plus sur le plan descriptif, en utilisant la notion de paysage telle qu'elle est développée en histoire de l'art et en géographie culturelle, c'est-à-dire le paysage en tant qu'artialisation de l'environnement, donc le paysage esthétique de la tradition de la peinture tel qu'il s'est développé en Occident et en Extrême-Orient. Donc je reprends cette notion de paysage telle qu'elle a été élaborée notamment par Augustin Berg, qui reprenait les critères définis par Alain Roger, donc les critères d'artialisation du paysage, in situ et in visu. Je n'ai pas sans doute besoin de rappeler ces critères ici. Et ainsi défini, bien sûr, le paysage est donc une forme de représentation, mais aussi d'appréciation de l'environnement tout à fait particulière, hein, construite culturellement et historiquement. Alors c'est peut-être une définition trop restrictive, mais j'ai fait ce choix méthodologique parce qu'il me semble justifié du fait que c'est bien une esthétique, cette esthétique paysagère très particulière et étrangère à la plupart des sociétés étudiées par les ethnologues. Donc c'est bien cette esthétique-là qui s'impose aujourd'hui, non seulement par l'omniprésence des images numériques, mais aussi par l'artialisation in situ qui découle des phénomènes de patrimonialisation de la nature, comme le sont la mise en parc, par exemple, ou la prolifération des projets d'écotourisme. Alors sur cette notion donc d'esthétique paysagère comme martialisation de l'environnement, il me semble important de souligner deux points en préliminaire de mon exposé, donc de mes données ethnographiques chez les Totonacs. Premièrement, ce processus, soit d'émergence endogène, soit d'imposition de l'esthétique paysagère, correspond aussi à une trajectoire politique. Il nous en dit sans doute autant sur la constitution du sujet dans une société donnée que sur le rapport que cette société développe envers son environnement. En effet, comme l'a montré Panofsky, la perspective linéaire institue l'individu face à un monde objectivé. Et en même temps, comme nous le savons bien en Europe et en Amérique du Nord, l'art paysager a aussi servi à naturaliser des processus de colonisation et d'expropriation politique et économique, que l'on pense par exemple au phénomène des clearances dans les Highlands d'Écosse, dont la population était expulsée par le processus de privatisation des terres, ou encore, par exemple, l'expulsion des Indiens Shoshone des montagnes rocheuses lors de la création du parc national de Yellowstone. Second point, le paysage dans ce sens esthétique restreint est autant une forme de représentation pictorale de l'environnement qu'une modalité d'appréciation de celui-ci. Car l'esthétique de la représentation paysagère influence bien sûr notre perception et notre appréciation de l'environnement, pour le moins dans certaines circonstances. Par exemple, si l'on est en urbain, en randonnée, en montagne. Si l'on considère donc le paysage comme un cas de figure particulier, le projet de l'anthropologie du paysage serait, tel que je le comprends, mais on peut en débattre, d'expliquer en quoi il ne s'agit en fait que d'un cas particulier parmi d'autres formes de représentation et d'appréciation de l'environnement, et comment cette modalité particulière est adoptée ou pas dans les situations que nous étudions. C'est donc dans cette optique que j'aborderai mes données ethnographiques concernant un groupe amérindien mexicain, les Totonacs de la Sierra Nord de Puebla, dans les montagnes tropicales du centre-est du Mexique. Afin d'éviter de jongler donc entre différentes acceptions du mot paysage, j'ai choisi de manière peut-être un peu arbitraire d'utiliser la notion de topologie pour désigner non seulement le rapport que les Totonacs établissent entre différents lieux ou espaces écologiques, mais aussi les rapports entre ces lieux eux-mêmes et entre ces lieux et différentes entités humaines ou non. À la fois dans la cosmologie et dans l'expérience pratique que font les Totonacs de leur environnement. Donc je tiens à préciser cependant que j'utilise cette notion de topologie de manière tout à fait naïve, même si j'ai bien conscience bien sûr de ses origines dans la mathématique et que par ailleurs c'est tout un champ de la réflexion en philosophie. Je n'en fais pas un usage aussi élaboré que d'autres collègues anthropologues, par exemple Barbara Glozewski. Je parle donc de topologie de manière générale en ce que je m'intéresse aux rapports entre différents lieux ou espaces écologiques, aux rapports entre ces mêmes lieux et différentes entités que l'on peut appeler surnaturelles pour faire vite, et enfin aux rapports entre les personnes, ces entités et ces lieux. Donc après une brève évocation des formes locales de représentation visuelle de l'environnement, c'est-à-dire des formes concrètes de mise en scène de différents espaces écologiques, notamment dans le rituel, je centrerai l'exposé sur les jugements que les Totonacs portent sur différents lieux et les critères multiples, multisensoriels et symboliques qui sont mobilisés lors de ces jugements. Cela m'amènera enfin à proposer d'intégrer les relations de pouvoir comme un élément clé des appréciations formulées par les Totonacs sur différents lieux, qu'ils soient considérés comme beaux ou comme laids. Mais tout d'abord, quelques éléments de contextualisation. La population Totonac, forte d'au moins 400 000 locuteurs, est distribuée dans les montagnes de la Sierra Madre Oriental, dans les états de Puebla et Veracruz, donc entre les montagnes de la Sierra Madre et les basses terres du golfe du Mexique. Mes données sont issues de plusieurs terrains effectués dans les montagnes de la Sierra Nord de Puebla, donc plus spécifiquement dans l'état de Puebla, principalement autour d'une municipalité qui s'appelle Huehuetla, et qui se caractérise comme une région à forte densité démographique, jusqu'à 270 habitants par kilomètre carré, même si cela n'a pas forcément l'air. Alors, cette région est marquée à la fois du point de vue de l'écologie et de celui des dynamiques politiques et socio-économiques par des usages de l'environnement concurrents et opposés, entre d'une part l'élevage bovin, pratiqué par la minorité métisse, et d'autre part l'agriculture paysanne indienne, qui combine la culture du maïs, principalement pour l'autoconsommation, et la culture commerciale du café. Un point est important à retenir de cette introduction concernant la caféiculture. C'est que la caféiculture dans la région se fait sous couvert forestier. En espagnol, on appelle ça le café de sombra, donc en opposition à la caféiculture de grande échelle, donc de plantation en monoculture. Et que donc, dans la région, en fait, la part du territoire qui est encore boisée en fait, repose essentiellement sur la pratique de la caféiculture. Donc 35% de la région est, est couverte de caféières, de jardins de café, et il ne reste plus que des résidus, moins d'1% de forêts, on va dire non cultivées, pour ne pas dire sauvages, dans les fonds de ravins et sur les pentes les plus escarpées. Donc quand vous voyez par exemple dans cette photo ici ce qui a l'air d'une zone plus ou moins boisée, en fait ce sont des caféières, donc il y a le couvert forestier, le café à l'étage inférieur, et vous voyez là peut-être une tache claire, en fait c'est une maison. Et la raison pour laquelle on ne se rend pas compte de la densité démographique, notamment dans cette photo bon, qui est peut-être prise sur un angle où on voit moins de maisons que sur d'autres prises de vue, c'est que la plupart des maisons totonaques sont dispersées sous le couvert forestier des caféières. Alors cette particularité de l'espace à la fois agricole et forestier de la culture du café se traduit aussi du point de vue de l'écologie symbolique. En effet, dans les représentations totonaques de l'environnement, les différents espaces relèvent de la tutelle de diverses entités, esprits ou saints catholiques. Par exemple, le saint patron de Huehuetla, San Salvador, Jésus Saint Sauveur, et la divinité protectrice du maïs, la Vierge de Guadalupe, et garante des récoltes de café. Il existe un esprit maître de la terre, le Xmalanatiyat, un esprit des animaux, Xmalanatakalchinin, et un maître de la forêt, Kiwikolo, le vieux des arbres. Or, du fait de son ambiguïté classificatoire, l'espace de la caféiculture relève donc à la fois du domaine de l'esprit de la forêt, Kiwikolo, et de la Vierge de Guadalupe, et nous reviendrons sur ces tutelles superposées sur les espaces boisés. Donc, première partie, les formes locales de représentation de l'environnement. Alors, disons-le d'emblée, la vision paysagère, telle que je l'ai définie, est une modalité de représentation et d'appréciation de l'environnement d'importation tout à fait récente dans la région. Mais avant d'aborder la question de l'influence éventuelle de cette vision paysagère sur les jugements que portent les totonacs sur leur environnement, voyons d'abord quelles sont d'autres formes de représentation que j'appellerais non paysagères de l'environnement. Elle se situe principalement dans le domaine du rituel. Alors, par exemple, on peut... je m'excuse, c'était la photo aussi pour montrer le... Donc une caféière, c'est peut-être plus précis que dans la photo antérieure, une caféière vue d'en haut, bon, si on ne connaît pas bien la végétation locale, on ne reconnaît pas forcément qu'il y a là, par exemple, des bananiers, et donc différentes espèces cultivées. A priori, quand on arrive sur le terrain, on ne sait pas forcément que, la première fois, on ne sait pas forcément qu'il s'agit du couvert forestier, de l'espace agroforestier de caféiculture. C'est principalement dans les pratiques rituelles qu'on pourrait peut-être chercher des formes de représentation symbolique de différents espaces écologiques qui se font, ces représentations, sur un mode que moi j'appellerais non paysager. Alors, par exemple, on peut commencer par la configuration esthétique des hôtels domestiques. En l'occurrence, dans cette photo, il ne s'agit pas d'un hôtel domestique dans une maison, mais ça correspond assez à la configuration d'un hôtel domestique. Là, il s'agit d'une cabane construite devant l'église lors de la fête de la Vierge de Guadalupe, mais c'est le même principe. Donc, on a une table avec l'image du saint, en l'occurrence ici la Vierge de Guadalupe, et tout un agencement esthétique, à la fois des offrandes et de différentes décorations, principalement à base végétale. Mais en fait, plus qu'une représentation de l'environnement immédiat, il s'agit plutôt d'un cosmogramme, comme l'avait déjà fort bien démontré Alain Hichon dans son étude de la religion totonaque. La table, ici, représente en fait à la fois la surface du monde, mais aussi ses pieds représentent les quatre piliers du cosmos. La toile en papier ou en plastique, que l'on ne voit pas ici dans cette photo, mais qui sur un hôtel domestique se situerait donc en arc au-dessus de la table, une toile en papier ou en plastique en général bleu, tout comme la toile ici qui est posée sur la table, cette toile correspond à la voûte céleste. L'agencement des offrandes, soit des fruits, des fleurs, des plats cuisinés, l'organisation spatiale de ces offrandes sur la table correspond aussi à une organisation de l'espace, tels que par exemple a étudié Luz María Lozada en ce qui concerne les offrandes de tamales, qui sont ces petits gâteaux de pâte de maïs. Donc l'organisation spatiale des tamales lors des offrandes qui sont faites lors de la fête des morts correspond aussi à une codification de l'espace et une codification de l'espace que l'on ouvre aux défunts, en fait, qui viennent visiter annuellement la maison dont ils sont issus. On pourrait développer ainsi différentes symboliques, notamment selon la nature, la préparation, la couleur, voire le goût, l'agencement réciproque des différentes offrandes, qu'il s'agisse donc de fleurs, de plats cuisinés, etc. Mais en même temps, cet agencement symbolique des offrandes fait aussi référence à certains lieux, alors que l'on pourrait dire mythiques en l'occurrence, notamment ici dans cette photo, toute l'organisation. Il faut que je montre là, pas sur mon écran d'ordinateur. Donc toute l'organisation de fruits suspendus. Hein, au lieu de la voûte céleste, on a une espèce de voûte de fruits et de produits, d'épis de maïs, etc. Donc de produits qui sont vraiment évocateurs de la fertilité agraire. Cette représentation-là, elle correspond au monde, pour les Totonacs, le monde des San Migueles. Or, Saint-Michel est la divinité garante de la fertilité agraire et notamment des pluies bénéfiques pour le cycle du maïs. Or, cette figure du Saint-Miguel Totonac, elle correspond presque exactement à une figure d'une divinité préhispanique qui est le Tlaloc du centre du Mexique, plus ou moins le Chacmol de l'ère Maya, et donc qui est la divinité responsable justement de la fertilité agraire et de la pluie qui arrose les champs de maïs. Et ce que l'on voit ici, cette représentation du monde des San Migueles, qui est une espèce de paradis de la fertilité agraire, correspond d'assez près à une notion préhispanique qui est celle du Tlalocan, le paradis des brumes, tel que l'a analysé un ethno-historien mexicain, Alfredo López Austin. Donc on voit là, dans l'offrande, une représentation, on serait tenté de dire un au-delà, mais là, ce serait séparer cet au-delà du monde ici-bas, alors que dans la cosmologie totonac, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que l'au-delà du monde des Tlaloc ou de Saint-Michel est en fait aussi une autre dimension du monde présent. Et Saint-Michel agit très concrètement, très directement dans les cycles agraires. Mais j'y reviendrai. Alors, cette notion de la table d'offrande comme un cosmogramme est très commune en Mésoamérique, et même au-delà, mais cela dépend un peu des conceptions, des définitions que l'on a de la Mésoamérique. Et par exemple, dans un contexte assez différent, chez les Hopis du sud-ouest des États-Unis, qui relèvent d'une certaine manière de l'extension la plus septentrionale de l'ère mésoaméricaine, Patrick Pérez a analysé ce type d'offrande, donc d'offrande sur les rituels domestiques, comme étant un proto-paysage. Donc il a analysé les différentes offrandes, leur agencement, les rapports de correspondance entre les couleurs et différents espaces du territoire Hopi, et il définit ça comme un proto-paysage. Mais l'esthétique de ces offrandes chez les Hopi s'insère dans une tradition architecturale très élaborée, notamment par rapport au positionnement des fenêtres et l'alignement des bâtiments, non seulement par rapport à des pointages astrologiques, mais aussi par rapport à certains points de vue sur la topographie environnante. Et on pourrait considérer que cela relève d'un dispositif paysager, en tout cas qui se rapproche d'un dispositif paysager. Alors certainement, de tels dispositifs existaient-ils dans la Mésoamérique préhispanique ? Mais en l'occurrence, aujourd'hui, chez les Totonacs, en l'absence de tels dispositifs architecturaux, je ne pense pas que la notion de proto-paysage puisse être appliquée au contexte Totonac, donc. Mais on pourra en discuter. En passant donc des offrandes à un autre contexte rituel, qui est celui des danses rituelles, donc un contexte moins statique, et où les enjeux sont divers, et notamment le pouvoir de l'image est mis en mouvement, on peut aussi poursuivre cette notion d'une référence symbolique à différents espaces écologiques, et en l'occurrence des références beaucoup plus directes, notamment dans une des danses qui est celle, la danse des vieux, si on traduit, la danse des wewes en totonac, ou la danse en nahuatl, elle est souvent appelée danse des wewes même par les totonacs, ou aussi appelée sitkam en totonac. Donc. Cette danse, en fait, mobilise toute une symbolique du monde sylvestre. En apparence, il s'agit d'abord d'une moquerie carnavalesque au sujet des non-indiens, donc les métis, la minorité métisse qui monopolise le pouvoir économique et politique dans la région. Mais en même temps, elle met en scène le passage de la chasse à l'agriculture et le récit de la découverte du maïs dans la montagne sacrée, mythe d'origine du maïs classique en Mésoamérique. Alors, au cours de cette danse rituelle, pendant laquelle on fait monter plusieurs animaux empaillés le long d'un mât de bambou, le symbolisme de la forêt sauvage joue un rôle central en tant que référent de l'identité totonaque. En préparation à la danse, un tronc en bambou est érigé sur le terre-plein devant l'église. Il est par ailleurs entouré de feuilles, soit d'un palmier ou soit de bananier. Ce mât d'une douzaine de mètres d'eau, donc, marque le centre, bien sûr, de la danse, mais il représente en même temps la montagne originelle où les dieux avaient caché le maïs. Les feuilles sont la forêt. Le tout est entouré à sa base par un écran en toile blanche de la hauteur d'un homme et soutenu par 12 perches en bois, formant une structure circulaire de 3 mètres de diamètre. Cette toile permet en fait de cacher un des participants de la danse qui fait monter différents animaux, soit empaillés, soit des figures en bois, le long de ce mât, retraçant en fait la narration du mythe d'origine du maïs dans laquelle différents animaux montrèrent à un chasseur où était caché le maïs, et notamment le pie vert, ou plutôt le pic noir à tête rouge, il faudrait dire, donc un type de pie vert de la région, révéla en fait aux humains non seulement où était donc caché le maïs, mais les aida à l'extraire de la montagne, à extraire le maïs de la montagne originelle, et ensuite enseigna aux humains comment cultiver le maïs. Alors, pendant justement la phase principale de la danse, on fait d'abord monter un coati, mais lui n'est pas censé avoir accès au maïs, aux semences divines, et il est tué par le chasseur, qui en l'occurrence est représenté dans la danse par une sorte de bouffon, qui représente en fait le maître des animaux. Puis, donc, on fait monter une effigie d'un pie vert, qui libère en haut du mât un drapeau. On dit de ce drapeau qu'il s'agit des fleurs. Les fleurs qui fleurissent à la surface des arbres pour faire plaisir à Dieu. Ce drapeau, dans le passé, était plutôt une fleur en papier rouge, qu'on appelait Chichinishanat, c'est-à-dire la fleur soleil. Donc clairement aussi un symbole solaire. Alors, ce qui est important, c'est que quand le pie vert est ramené par un mécanisme de ficelle, quand il redescend le long du mât, je n'ai malheureusement pas de photo, quand il redescend le long du mât, en fait, il coupe les feuilles et donc il épluche, si on veut, ce mât de bambou. Et en fait, les spécialistes de la danse disent eux-mêmes, cela correspond au défrichage. Hein, c'est la forêt qui est défrichée pour la culture du maïs, puisque le pie vert a montré aux humains à montrer aux humains la culture du maïs. Donc on observe, alors je pourrais développer bien sûr et entrer dans les détails, mais j'en ai pas le temps, mais l'idée, vous retiendrez l'idée générale, c'est qu'en fait il y a toute une logique de correspondance métonymique. Le mât de bambou que l'on trouve en général en montagne, enfin dans les fonds de ravins, etc. Le mât représente la montagne, tout comme Il représente aussi l'arbre cosmique de la cosmologie mésoaméricaine, mais il y a toujours une équivalence entre l'arbre et la montagne. Les feuilles, donc, soit de bananier, soit de palmier, représentent donc le couvert forestier, la forêt, la végétation tropicale. Le drapeau représente des fleurs, etc. Et donc, ces correspondances métonymiques permettent de représenter de manière codifiée une série d'éléments à la fois du cosmos, mais aussi des espaces écologiques tout à fait concrets, comme la montagne et la forêt. Et en l'occurrence, la représentation de la forêt, bien sûr, il s'agit de la forêt dans ce qu'on pourrait appeler, ou ce que d'autres appelleraient un paysage mythique, la forêt d'antan, la forêt des temps passés, donc de la découverte du maïs avant le passage à l'agriculture, mais il s'agit aussi de la forêt concrète présente aujourd'hui, des espaces boisés. Donc dans l'exégèse que font notamment les membres du au-delà des spécialistes du rituel, les membres du public Totonac, les récits ou dans leur explication de ce rituel, ils font très concrètement référence à la situation actuelle et que le rituel, en fait, bien sûr, c'est le mythe d'origine du maïs, mais c'est aussi, quelque part, une réflexion sur notre rapport au métis, notre rapport à la forêt et le fait que l'agriculture du maïs, c'est ce qui nous constitue. Et je dis bien constitue non seulement sur le plan symbolique et de l'identité, ce qui nous constitue en tant que Totonac, mais aussi ce qui nous constitue presque ontologiquement, substantivement, si on veut, en tant que Totonac, parce que le maïs est notre chair. Un des mots pour désigner le maïs, c'est Kintiakliwai, notre chair de la terre. Mot que l'on utilise par ailleurs aussi pour désigner le corps du Christ. Ce qui fait que les Totonacs disent que les curés n'y ont rien compris. Lors de l'Eucharistie, l'hostie, ça devrait être une tortilla de maïs. Donc, bon, petite parenthèse, vous comprendrez donc en fait comment ces notions à la fois très concrètes de la fertilité agraire, mais qui ont bien sûr une résonance cosmologique, se superposent ou se syncrétisent, si on veut, pour dire vite, avec le catholicisme populaire indien. Alors, on pourrait développer, bien sûr, toutes ces correspondances symboliques, voire même, il serait tentant de faire une analyse structurale en comparant cette danse avec une autre danse, celle des Voladores, qui est plus impressionnante, où il y a toute une série de correspondances avec, là, en l'occurrence, un mât qui est issu d'un tronc d'arbre, les axes verticaux, le mouvement circulaire. Enfin. Mais je pense que développer une analyse plus poussé sur le plan symbolique serait peut-être, présenterait un risque de surinterpréter. Ce qui est important pour le public totonac qui observe la danse, c'est qu'il s'agit avant tout d'une offrande. Il s'agit avant tout d'une offrande faite au saint patron et qui s'insère dans la logique de reproduction des cycles agraires, où autant le travail des hommes dans les champs de maïs que celui ou l'effort fait par la communauté pour faire des offrandes au saint patron correspondent en fait à un travail ou à un service rendu par les hommes en collaboration avec les saints, notamment avec Saint Sauveur, responsable de la culture du maïs, pour permettre justement la continuité des cycles agraires, mais aussi la reproduction de la communauté. Alors, si on passe maintenant à la question l'émergence d'une esthétique paysagère. Alors certainement, au cours des 30 dernières années, la population totonac a été de plus en plus exposée à cette esthétique par le biais des images, notamment à travers l'éducation formelle, bien sûr, ces images reproduites dans les livres scolaires, mais bien sûr aujourd'hui aussi de plus en plus par la généralisation des médias électroniques. On retrouve donc ces images de paysages, si on veut, reproduites parfois même jusque sur les murs des bâtiments des écoles, comme ici en l'occurrence dans cette fresque. Bon, c'est un paysage un peu naïf, mais donc une fresque qui représente quand même bien un paysage dans une école de la région. Il existe aussi une littérature en langue totonac, et en langue nahuatl, puisqu'on est dans une région interethnique, notamment de poèmes que l'on pourrait analyser, dont certains pourraient être analysés comme étant des poèmes qui évoquent des thèmes paysagers. Mais cette littérature a encore une diffusion très limitée, et donc c'est une modalité littéraire vraiment tout juste émergente. En fait, c'est surtout par le développement de projets de développement durable et notamment d'écotourisme, à mon avis, que s'impose progressivement cette perspective paysagère. Alors, par exemple, dans la région de Huehuetla, il y a une dizaine d'années, a été créé un projet d'écotourisme qui s'appelle Kakewin Totonaku, la forêt Totonac. Et lors du développement de ce projet, était organisée une série de réunions avec les futurs guides Totonac, donc des réunions organisées par l'Église catholique qui soutenait ce projet, et des ONG, pour que les Totonac apprennent à savoir ce que les touristes veulent voir, el paisaje. Et le but étant aussi de définir les itinéraires en fonction aussi des capacités physiques des touristes. Donc pour les plus jeunes, on décidé de les amener à un belvédère naturel qui est cette montagne de Cruz Sipi, de laquelle on a une vue vraiment panoramique sur la région. Donc un sommet local est institué en belvédère, un belvédère naturel, si on veut, mais qui est un sommet auquel on ne se rendait que pour certains rituels, d'où son nom d'ailleurs, Cruz Sipi, la montagne, Sipi c'est la montagne en Totonac, Cruz la croix, donc empreinte de l'espagnol. Et on apprend donc à amener les touristes voir le paysage. Enfin, l'ethnologue est aussi un véhicule de cette vision paysagère, surtout lorsqu'il montre ses clichés photographiques à ses hôtes. Or, c'est justement une erreur méthodologique que j'ai faite au début de mon terrain qui m'a amené à me poser des questions sur la question du paysage, enfin sur la notion de paysage. J'avais choisi comme méthode à la fois d'apprentissage de la langue totonaque, mais aussi comme manière, à travers des entretiens enregistrés, de commencer à appréhender les catégories totonaques de ce que moi je considérais tant le paysage, enfin en tout cas leur catégorie de classification des espaces, de leur montrer des séries photographiques. De paysages de la région. Donc, j'ai fait une vingtaine d'entretiens comme ça, sans me poser la question qu'en fait, en faisant cet exercice, je cadrais vraiment mon appréhension de leur perception de l'environnement, j'allais dire du paysage, de leur perception de l'environnement, dans un mode complètement paysager. Leur rapport à l'objet de la photo est bien sûr un rapport très particulier, un objet esthétique tout à fait particulier, qui cadre bien sûr la perspective sur l'environnement. Et en fait, mes hôtes étaient très prolixes en la matière, parce qu'ils avaient l'habitude justement de voir des photos ou des images de paysages, notamment dans ces cadres à la fois d'éducation et de projets de développement. Ils avaient déjà tout un apprentissage de cette manière qu'ont les intervenants extérieurs, soit gouvernementaux, soit ONG, etc., d'utiliser des photographies pour faire parler les gens. Alors ceci dit, c'est parfois dans les erreurs de méthode sur le terrain que l'on apprend le plus. Et en effet, nous allons voir quel a été, je vais exposer très rapidement, quel a été le résultat en fait de ces entretiens. Alors d'une part, dans un premier temps, émerge tout un discours de valorisation d'un environnement totonac qui serait dominé par la couverture, le couvert forestier, en opposition à un environnement que les Totonac considèrent comme étant métis, qui est celui essentiellement des pâturages et bien sûr des centres urbains. Donc une opposition qui se fait autour de la présence ou l'absence d'arbres et qui se fait en référence à la fertilité agraire. Ceci dans un contexte aussi de développement, de négociation du développement durable, où les organisations indiennes mobilisent les discours écologistes et se présentent volontairement comme étant les bons indiens écologistes. Mais ceci dit, ce discours va bien au-delà des simples dirigeants des organisations. Donc, dans les entretiens que j'ai faits, je parlais avec tout un chacun, en fait, en fonction des possibilités du moment, donc à la fois des femmes, des hommes âgés, plus ou moins âgés, pas actifs du tout dans les projets d'ONG, voire éventuellement aussi ceux qui participaient. Et en fait, ce discours sur le monde sylvestre, sur le monde de la forêt comme référent identitaire, est assez largement partagé. Anna me disait par exemple, à propos de cette photographie, Antawin tapachuan kakiwi la mao akinin, wila kokan natutlar yan kiwi akon chikinitasiyu. Ici, on voit le monde de la forêt où nous vivons dans la joie. On ne voit pas les maisons parce qu'elles sont cachées par la forêt. Alors donc, toute une rhétorique sur le monde de la forêt, alors qui est en fait la forêt tout à fait cultivée, tout à fait anthropisée, des caféières. Hein, cette équivalence entre l'habitat totonac et le couvert forestier en opposition au monde métis. Alors, jusque-là, a priori, on est dans un discours vraiment esthétisant de l'environnement, mais qui, encore une fois, bien sûr, était complètement cadré par l'expérience sur la base des photographies. Ce qui est intéressant, c'est que dès les commentaires sur ces photographies, émergeaient d'autres catégories de discours sur l'environnement. Notamment quand Anna, ici, me disait « Nous vivons dans la joie, dans la forêt », elle a aussi dit « Nous vivons dans la forêt, les métis, eux, ils n'ont pas besoin d'arbres. Là où ils vivent, il n'y a pas d'arbres, il fait très chaud. Là où nous travaillons la terre est contente, elle est contente parce qu'elle est fraîche. » Et en fait, cette opposition de catégorie du chaud et du frais ou du chaud et du froid fait référence à une polarité cosmologique du chaud et du froid qui organise par ailleurs aussi la distribution des différentes divinités et des esprits maîtres de l'environnement, donc en une moitié céleste du cosmos, chaude donc, de laquelle relève San Salvador, Saint Sauveur par exemple, le maître du maïs, et une partie froide de l'inframonde, du monde des ancêtres et de la forêt, de laquelle relève notamment le maître de la forêt, Kiwikolo, et d'autres esprits associés au monde sauvage. Et en fait, cette rhétorique d'artialisation, si on veut, mais en tout cas d'esthétique de l'environnement qui émergeait de ces entretiens, elle est bien sûr en partie influencée par une vision paysagère, vu la nature de l'exercice, mais en fait, elle recouvre aussi des choses que me disaient ensuite les cultivateurs totonac lorsque nous allions ensemble soit faire les semailles ou récolter le maïs, par exemple. Donc, des propos qui se tenaient aussi complètement indépendamment de cet exercice à base de photographie, qui valorisaient la beauté de la fertilité agraire, ce qui n'est pas surprenant, bien sûr, pour une population paysanne, mais en mobilisant ces catégories cosmologiques du chaud et du froid, et où la croissance des plantes résulte de la combinaison idoine adéquate de forces chaudes et de forces froides qui permettent la vie. Et donc, dans ce discours qui valorise les espaces à la fois domestiques, totonac, donc les maisons dans les caféières, ou les espaces d'agriculture, les champs de maïs, situe la sociabilité totonac, l'identité et la sociabilité totonac, dans le juste milieu entre le trop chaud des espaces métis, les pâturages, les bourgs, dénudés d'arbres, et quelque part le trop froid de l'inframonde du monde de la forêt, c'est-à-dire des résidus de forêt sauvage. Et c'est à ceci que je passe. Donc là, vous voyez un champ de maïs, hein, avec aussi, bien sûr, la beauté du champ défriché, bien entretenu, etc. Et j'en viens donc aux espaces les plus sauvages, les résidus de ce que nous appellerons les espaces les plus sauvages, on peut en discuter aussi, donc les résidus de forêt dans les fonds de ravins et sur les plantes les plus escarpées. Alors en fait, dans l'opposition que mes interlocuteurs faisaient entre les espaces métis et les espaces indiens, ils désignaient certes les pâturages comme étant des espaces mauvais, car trop chauds, mais jamais explicitement comme des espaces vraiment laids. Le mot lishkan, qui en totonac veut dire laid, à la fois comme on dirait une personne laide esthétiquement, mais s'appliquait donc aussi à certains espaces, s'appliquait seulement explicitement aux espaces de forêt sauvage. Et en fait, je voudrais en venir à analyser d'un peu plus près cette notion d'espace laid, d'espace lishkam, comme disent les totonacs. Parce qu'en l'occurrence, les exégèses les plus intéressantes que j'ai pu avoir sur cette notion de laideur de certains espaces, elles me venaient beaucoup plus d'expériences fortuites lors de promenades, de conversations sur ces promenades avec mes interlocuteurs totonacs, beaucoup plus que de l'exercice à base de commentaires de photographies. Et en fait, ce jugement négatif sur les espaces de forêt les plus lointains, les plus isolés, les plus inaccessibles par rapport au village, ce jugement négatif s'appuie sur des critères qui relèvent à la fois de l'expérience multisensorielle de la fréquentation de ces lieux, mais aussi de conceptions symboliques et d'évaluations morales concernant les différentes relations qu'entretiennent les humains et les non-humains dans ces espaces. Alors, par exemple, lors d'une visite chez Guadalupe et Bernardo, au cours d'une conversation de politesse qui n'avait aucune intention de développer, je n'avais aucune intention de développer un entretien, ce n'était pas du tout ciblé, je leur raconte que je reviens d'une promenade dans un fond de ravin où il y a une grotte et où j'avais par ailleurs trouvé de vieux tessons. Donc j'étais un peu curieux, j'ai posé des questions. Il se trouve que c'est une grotte où les grands-pères faisaient des offrandes il y a longtemps, peut-être pas si longtemps que ça. Pas si longtemps qu'on veut bien le dire. Et Guadalupe m'explique le nom de ce lieu, Campi, en disant « Anan shlua takalhinin ». Il y a beaucoup d'animaux. Et de rechef, Bernardo, son époux, me dit en espagnol « Ves que está feo, hay muchas rocas, hay muchas piedras, es difícil de caminar. » Enfin, il n'a pas dit « es difícil de caminar », il a juste dit « Ves que está feo para caminar, hay mucha piedra. » Je traduis « c'est moche, c'est difficile pour y. Il est difficile d'y marcher, de s'y déplacer. » Vous noterez que Guadalupe et Bernardo ne disent pas vraiment la même chose. Mais de toute évidence, il y a un lien entre la présence de beaucoup d'animaux, beaucoup de pierres, et la difficulté du cheminement. Alors, il ne s'agit pas là, a priori, quand Bernardo dit en espagnol está feo. Même si le mot feo en espagnol veut aussi dire moche, il veut aussi dire difficile, en tout cas dans l'usage mexicain du mot. On pourrait douter qu'il s'agit d'un jugement purement esthétique. Il dénote en fait, effectivement, ce jugement, la difficulté de cheminement. Mais cette explication, donc la difficulté de cheminement, bien sûr, dans un fond de ravin, par exemple, où il y a beaucoup de rochers, il n'y a pas de sentier, une végétation touffue, etc. Mais cette explication n'est toutefois pas à prendre au degré seulement au degré pratique immédiat, donc celui de la difficulté de cheminer dans un fond de ravin accidenté. Elle est aussi à mettre en rapport avec le souci de perte de l'âme par l'effroi pouvant être provoqué par la rencontre avec différents esprits maîtres des lieux. Notamment, par exemple, le maître de l'eau, lorsqu'il y a un cours d'eau, le Shmalana Chuchut, ou le maître de la forêt, Kiwikolo, donc le vieil arbre, ou encore, éventuellement, la perte de l'âme, cet effroi, donc le susto, hein, l'effroi et la perte de force vitale par le choc émotif, ou éventuellement par un choc physique, la chute dans un sentier, par exemple. Donc cet effroi qui provoque une perte de force vitale peut aussi être la conséquence donc, de différentes rencontres avec éventuellement des serpents ou avec des visions de monstres. Notamment, on dit, des rochers dans les fonds de ces ravins, que pendant la nuit, ils risquent de se transformer en animaux sauvages, en animaux féroces plutôt, chaluco, en animaux féroces, soit des serpents, soit des jaguars, ou dans la version plus christianisée, plus chrétienne, en des esprits malins qui sont rapportés plus ou moins au diable. Dans un contexte similaire, et en parlant d'une grotte où résiderait le maître des animaux, notre interlocuteur, Salvador, utilisa le mot totonac lishkan, a priori dans le même usage que Bernardo en faisait du mot espagnol feo. En effet, il m'avait dit qu'il n'y avait pas si longtemps, il s'était rendu à une grotte pour faire une offrande au maître des animaux pour protéger son champ de maïs de la prédation des différents animaux qui consommaient ses épis. Bon, bien sûr, intrigué, curieux, je lui demande de m'y amener. Il me dit « Lishkan, tu atlamanan, c'est difficile d'y aller. » Alors, en me disant cela, en me disant que c'était moche, a priori, il me mettait effectivement en garde de la difficulté de se rendre à cette grotte, en raison d'une pente très abrupte et d'une végétation très touffue, comme j'ai pu le constater quand nous y sommes allés. Mais ce terme, l'Ishkan, désigne plus que la simple difficulté de cheminer en ces lieux, d'un point de vue purement phénoménologique. Alors, comme je le disais, il fait référence à différents dangers, hein, notamment le risque de perte de l'âme. Ces dangers, en fait, qui relèvent de la présence de l'esprit maître des animaux dans cette grotte et son influence sur l'espace forestier qui entoure cette grotte. Donc, la notion de danger, qui est à la fois un danger physique et un danger, nous dirions, symbolique, mais ce n'est pas symbolique pour les Totonacs, c'est bien réel, émane, en fait, de la présence de ces esprits ou de ces maîtres des lieux. Et cette notion, notamment du maître des animaux, mais aussi du maître de la terre, qui est avide de force vitale ou d'âme humaine, on pourrait dire, pour faire vite, hein, qui attrape la force vitale, par exemple, d'un enfant qui est tombé sur le chemin. Cette notion, donc, de maître des lieux avide d'âme humaine correspond à l'idée d'une terre dévoreuse, hein, qui est une continuité d'une notion très commune en Mésoamérique, que Arnold Philip, dans son étude des rituels de la vallée de Mexico à l'époque préhispanique, a appelé « the eating landscape », le paysage dévoreur. Alors, j'émettrai quelques doutes sur la notion de l'usage de la notion de paysage en l'occurrence, mais il s'agit bien donc d'une configuration, d'une représentation de l'environnement, où l'environnement est bien sûr un être avec une intentionnalité, ou en tout cas certains espaces sont habités et matérialisent en même temps ces êtres prédateurs d'âmes humaines, auxquels à l'époque préhispanique il fallait par ailleurs faire parfois des sacrifices, éventuellement des sacrifices humains, pour les contenter et assurer soit des récoltes, soit leur bienveillance. Alors, comme Louise Burkhart en fait l'exposé très convaincant dans son livre « The Slippery Earth », « La terre glissante », on pourrait traduire, cette conception d'une terre dévoreuse s'inscrit dans un modèle cosmologique plus général d'un équilibre nécessaire entre les forces actives du chaos et celles de l'ordre, une opposition à laquelle se superpose ensuite, à partir du XVIe siècle, donc suite à la colonisation, la dichotomie chrétienne du bien et du mal. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce point ici, mais on ne sera pas surpris de retrouver chez les Totonacs cette superposition de critères moraux chrétiens selon lesquels les êtres et les esprits de la forêt du monde sauvage sont assimilés à des démons et au diable. Mais ce qui m'importe ici, c'est que si la notion de laideur, l'ishkan, appliquée à ces lieux correspond donc à multiples formes de danger, il y a bien aussi une appréciation esthétique dans ce jugement moral négatif sur ces lieux. Le fouillis de végétation et le chaos des rochers est en effet une manifestation visuelle et physique aussi, puisque ça représente une difficulté de s'y déplacer dans ces lieux, mais c'est bien une manifestation visuelle de la présence des esprits maîtres de la forêt, aujourd'hui donc souvent rapprochés au diable, qui s'oppose à l'ordre, donc ce chaos s'oppose à l'ordre voulu par Dieu et à la beauté des espaces agricoles. Donc à la beauté de la fertilité agricole telle que ça manifeste dans les champs de maïs. Donc cette opposition entre l'ordre et le chaos est donc un des critères d'appréciation soit positive, soit négative que les Totonacs portent sur différents lieux. Une dichotomie qui, comme je le disais, en Mésoamérique revêt d'une dimension cosmologique. On notera d'ailleurs que ces mêmes espaces considérés comme chaotiques sont ceux qui, dans la polarité du chaud et du froid, sont désignés du côté du pôle froid et de l'inframonde, donc les espaces, principalement les espaces sylvestres. Donc on peut dire que pour les Totonacs, la difficulté pratique de cheminer en ces lieux, l'expérience phénoménologique de l'engagement dans l'environnement, l'engagement tel que l'a théorisé Tim Ingold, cette expérience phénoménologique est en fait l'expression matérielle de la présence et de l'action sur ces sites de différents esprits maîtres avec lesquels il faut négocier. Et c'est cette notion de négociation nécessaire de la fréquentation de ces lieux qui m'amène à parler, donc ma troisième partie, de topologie politique, des jugements moraux et esthétiques portée sur l'environnement. Alors nous l'avons vu, les critères totonacs d'appréciation ou de jugement sur différents lieux de leur territoire mobilisent divers registres. Celui de l'engagement dans ces lieux, alliant à la fois des critères multisensoriels, comme l'aspect visuel, la difficulté de cheminement, je n'ai pas parlé d'aspect sonore et peut-être olfactif, mais il faudrait sans doute les y ajouter. Allier donc ces aspects tout à fait phénoménologiques de l'expérience à des représentations sur la fertilité agricole, sur l'ordre et le chaos, sur les dangers de rencontres hasardeuses avec des maîtres des lieux, le tout dans une cosmologie où l'environnement est appréhendé sous le jour d'une écologie sensible, ou sentient ecology, selon le concept développé par David Anderson dans un tout autre contexte, concernant les relations écologiques des chasseurs de rennes du Nord canadien. Donc où l'environnement, selon Anderson, qui dirait volontiers landscape, paysage, l'environnement répond en fait aux actions des hommes en se montrant soit généreux, soit punitif ou vengeur, que ce soit directement ou par le truchement de différentes mères du gibier lorsqu'il s'agit de la chasse, ou des esprits maîtres des lieux, par exemple. Donc cette idée générale d'une écologie sensible correspond assez bien à ce que j'ai décrit jusque-là concernant les représentations totonaques de l'environnement. Mais comment caractériser de manière plus précise les modalités d'appréciation non paysagère de l'environnement dans ce cadre d'une écologie sensible? L'aspect qui retient le plus mon attention est le lien entre l'appréciation positive ou négative de différents lieux et les relations effectives ou potentielles avec les esprits maîtres qui les habitent. Ces relations se caractérisent soit par la collaboration, comme lors du travail agricole, la collaboration entre les hommes et les saints catholiques pour assurer les cycles agraires, soit par la négociation, qui peut être conflictuelle, comme c'est le cas dans les relations entre les esprits des lieux sauvages, par exemple lorsque l'on fait l'offrande, une offrande d'eau-de-vie et de tabac au maître des animaux pour assurer sa bienveillance et donc la protection de sa récolte de maïs. Nous sommes donc dans un registre que je serais tenté de qualifier de politique, mais un registre politique, en tout cas de relations de pouvoir, où ces relations ne sont pas seulement celles de la négociation entre les humains sur l'usage des différents espaces, donc par exemple la confrontation entre l'agriculture paysanne et l'élevage bovin, ou la négociation des droits forestiers avec le gouvernement, mais où cette négociation est aussi une négociation entre les humains et différentes entités, divines, esprits, esprits de la forêt, etc., mais aussi de négociations entre ces mêmes entités. Donc, par exemple, c'est le cas de cet espace ambigu de la caféiculture, où la souveraineté, si on veut, sur l'espace agroforestier du café, est une souveraineté partagée entre la Vierge de Guadalupe, responsable ou garante de la récolte du café, en alliance avec Saint Sauveur, qui est aussi l'esprit maître d'une variété de café, le café arabica, qui est l'espèce la plus ancienne dans la région, d'une part, donc entre les saints catholiques, et bien sûr, Kiwikolo, le maître de la forêt, le maître des arbres, et ses différents aides, le maître des animaux, et différents esprits secondaires, des lutins du monde de la forêt. Donc, cette réflexion m'amène en fait à revenir sur une notion que j'avais développée lors de ma thèse, dans laquelle j'avais caractérisé le rapport totonac à l'environnement comme relevant d'un rapport tutélaire, hein, une classification tutélaire des espaces écologiques. Le problème de cette notion de rapport tutélaire à l'environnement, c'est qu'elle pourrait laisser entendre qu'il y a en fait une tutelle pour chaque catégorie d'espace écologique. Alors qu'on le voit bien, en fait, les tutelles des différents saints et des différents esprits sur différents espaces, comme la caféiculture, en fait, elles sont partagées, elles se chevauchent, elles se superposent, elles font l'objet de fluctuations dans le temps et dans l'espace. Kiwikolo est plus présent dans les espaces boisés de caféiculture les jours de brume ou la nuit, alors que, on est de jour et c'est un jour ensoleillé, on a peu de chance de rencontrer Kiwikolo dans ces lieux, et c'est plutôt l'espace agricole de la caféiculture qui prend le dessus, si on veut. Et donc on a des rapports, des relations de souveraineté de ces différentes entités sur les espaces qui sont à géométrie variable. C'est ce qui m'a incité, quelque part un peu intuitivement, de parler de topologie. Alors, j'en viens en fait à une notion, cette idée de pouvoir sur les espaces, qui est aussi, bien sûr, concrètement et de manière pratique, le pouvoir ou l'accès ou la possession des hommes sur certains lieux, m'amène à évoquer une notion totonaque qui est celle de Chuchutsipi, qu'on peut traduire littéralement par l'eau-montagne, et qui correspondrait ou pourrait correspondre, qui serait la seule notion qui se rapprocherait plus ou moins de la notion de paysage. En tout cas, c'est le mot utilisé, notamment dans les ateliers faits avec les ONG pour le projet d'écotourisme, c'est le mot utilisé en totonac pour traduire le mot paysage. Sauf que Chuchutsipi désigne en fait principalement aujourd'hui dans son usage courant la communauté en action. Alors la communauté en action, c'est par exemple lors du rassemblement, lors de la participation d'hommes issus de l'ensemble des villages de la municipalité pour la corvée qui est nécessaire pour transporter le tronc d'arbre qui sera utilisé pour la danse rituelle des voladores. Lors de cet effort, qui est substantiel pour y avoir participé, je peux en attester, s'exprime aussi toute la fierté, bien sûr, c'est un moment assez, assez fort, hein, toute la fierté de la mobilisation de la communauté et du pouvoir de la communauté, puisqu'on donne aussi à voir la capacité de rassemblement et de mobilisation, notamment quand on traverse le chef-lieu dominé par les métis pour amener le tronc d'arbre et le planter devant l'église de la paroisse. Par exemple, lors de cette corvée, les meneurs autoproclamés s'exclamaient « Shliwaka Chuchutsipi ». C'est le pouvoir, c'est la force de la communauté. Donc Chuchutsipi désigne la communauté territoriale dans son action collective. Et dans ce sens, cela correspond assez à une notion du paysage, mais dans son étymologie germanique, le Landschap, par exemple, néerlandais, donc l'ancêtre étymologique de landscape, Landschaft en allemand, qui en fait, comme l'a analysé Ken Olwick, cette notion, l'ancêtre étymologique donc, du landscape, ou Landschaft anglo-saxon et germanique, est en fait une notion d'un territoire coutumier. Hein, à la fois, le landscape désigne à la fois ce territoire et la communauté humaine, le collectif humain, qui exerçait des droits collectifs sur ce territoire. Chuchutsipi correspond certes en partie avec cette idée de communauté territoriale, à cette notion, hein, à cet ancêtre étymologique du Landschaft des langues germaniques. À ceci près que, bien sûr, ici, le collectif n'est pas seulement humain. Il faut y inclure toute une série d'entités, humaines et non humaines, donc du côté des non humains, les plantes, les animaux, les esprits maîtres des lieux, les saints catholiques et les divinités principales, en l'occurrence, Dieu en sa manifestation locale concrète de Saint-Sauveur. Donc, ce collectif du Chuchutsipi inclut toute une série d'entités avec lesquelles il faut négocier. Et donc, je suis tenté de désigner cette conception comme relevant d'une topologie politique. Car si, effectivement, je pouvais garder simplement cette notion de conception tutélaire du rapport à l'environnement, comme je le disais, la notion de topologie désigne mieux cette idée de chevauchement, de superposition et de tutelle ou de souveraineté partagée sur les différents espaces, partagée entre les humains, entre différents groupes humains entre eux, partagée entre les humains et les entités surnaturelles, qu'on pourrait appeler surnaturelles pour faire vite, et bien sûr entre ces différentes entités, comme je l'expliquais. Donc, dans cette topologie politique, les totonacs se désignent eux-mêmes comme négociant leur existence dans le juste milieu entre les espaces trop chauds et les espaces trop froids de l'inframonde et de la forêt, entre donc, les espaces trop chauds métis et l'espace des ancêtres antédiluviens qui relève donc du monde de la forêt. Or, comme je l'avais montré dans un travail antérieur, dans mon analyse de la danse des Wewes, que j'ai exposée brièvement au début, les totonacs se situent en bons chrétiens face aux mauvais chrétiens que seraient à la fois les métis et les esprits pré-chrétiens du monde de la forêt. Ils se situent ainsi du côté de l'ordre divin en opposition au chaos des uns et des autres. Les uns et les autres, les métis et les esprits de la forêt, relèvent quelque part du chaos dans la mesure où les uns et les autres sont assimilés à une catégorie qui est celle du féroce, chaluco. Ça n'a rien à voir avec loco, l'espagnol, ce n'est pas dérivé de l'espagnol. Chaluco est un terme totonac qui désigne, plus particulièrement concrètement, les animaux féroces, par exemple le jaguar, la panite, les prédateurs en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de jaguar, mais le coyote ou l'épervier qui vole de temps en temps les poules de la basse cour sont désignés de chaluco. Or, les métis sont aussi désignés de chaluco et les esprits maîtres de la forêt, de la terre, sont aussi chaluco féroces. Ils ne respectent pas les règles du bien savoir vivre ensemble de la sociabilité totonaque. On voit donc que les jugements de valeur, voire les jugements esthétiques que l'on peut porter sur les lieux ou sur ce que nous appellerions le paysage, dépendent en fait du positionnement dans ces filets de relations entre les lieux, les personnes et les entités surnaturelles. Et l'ethnologue, qu'il le veuille ou non, est partie prenante de ces relations de pouvoir, bien sûr. Par exemple, quand je demandais de faire des commentaires sur des photographies. Ce qui explique que... il me manque une photo, bon, je montrerai celle-là, donc, une photo d'un ravin, par exemple. Ce qui explique que le même ravin peut être... Pour un jeune totonac bilingue revenant de ses études supérieures, donc revenant de la ville, le même ravin montré dans une photo peut être donc décrit par ce jeune totonac comme étant « naturaleza », je ne me rappelle plus exactement comment il avait dit en espagnol, « la nature non touchée par l'homme, la naturaleza sin la mano del hombre », donc en l'occurrence il avait fait le commentaire en totonac, mais il avait pas traduit naturaleza. Il avait dit wa naturaleza, sans l'action de l'homme. Je ne me rappelle plus exactement l'expression qu'il avait utilisée. Donc ce même ravin en photographie peut être décrit comme une nature belle, sublime, donc de nature non touchée par l'action de l'homme, et dans une autre situation, celle d'un trajet à pied où l'on traverse ce ravin pour aller à la milpa, la même personne me dit c'est un endroit Cuenta Catlawa, fais attention, Lishkan, c'est laid, ma sœur y est tombée, elle a eu le sousto après, elle est tombée malade, il ne faut pas qu'on passe par ce chemin-là, il faut qu'on passe par celui d'à côté parce qu'il ne faut pas piétiner l'endroit où l'esprit de la terre a attrapé l'âme de la petite fille. Donc le même espace, hein, par la même personne, peut être bien sûr perçu, apprécié, sur le mode de différents registres, bien sûr, selon la situation, en fonction d'une logique relationnelle et situationnelle. Je conclurai en disant que si l'esthétique paysagère n'est aujourd'hui, même pour les totonacs, les jeunes totonacs bilingues, n'est aujourd'hui qu'une modalité d'appréciation parmi d'autres et qui n'est certainement pas dominante dans la région et parmi les totonacs aujourd'hui, on peut imaginer que cette perspective donc de l'esthétique paysagère pourrait s'imposer ou se généraliser, certainement avec l'emprise de plus en plus forte des moyens de communication modernes, de l'éducation formelle, des migrations vers la ville, etc. Mais dans cette perspective des rapports de pouvoir ou de topologie politique que je viens de décrire, l'imposition du paysage en modèle esthétique dominant impliquerait aussi une transformation de la topologie politique. C'est-à-dire qu'avec le paysage, la perspective unique de l'individu observant une nature objectivée implique aussi, à moins qu'elle en soit le résultat, une redistribution des tutelles sur les différents espaces écologiques où les esprits maîtres ne seraient plus qu'un souvenir dans la tradition orale et les acteurs politiques humains seraient les seuls à négocier entre eux le contrôle des ressources naturelles en acceptant tout au plus l'idée de la transcendance d'un dieu unique avec lequel on ne négocierait pour autant pas une action aussi triviale que l'abattage d'un arbre. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le rapport aux espaces forestiers. Il y a eu tout un processus politique de négociation des droits d'abattage, des droits forestiers, donc le droit d'abattre des arbres, dans le cadre de politiques de protection de la nature de la part du gouvernement fédéral et du gouvernement de l'État fédéré de Puebla. Et le résultat de ces négociations, c'est qu'aujourd'hui, on négocie l'autorisation de couper un arbre, d'abord avec les autorités locales, et de moins en moins avec Kiwikolo, le maître des arbres. On se rappellera de Kiwikolo quand on coupera un arbre pour un usage rituel, par exemple pour la danse des voladores, parce que là, si on ne fait pas tout bien comme il faut, il y a quand même des risques, en sachant que dans la danse des voladores, il y a souvent des accidents, parfois même des morts. Donc, on revient, bien sûr, sur le rôle de Kiwikolo, sur le maître de la forêt, lorsqu'il y a un accident, pour dire « Ah, mais tu n'as pas fait l'offrande nécessaire ». Mais son rôle est diminué, et plus marginal aujourd'hui. Et on peut imaginer que la tendance serait la même que ce qui s'est passé avec le maître des animaux, dont on ne se rappelle que plus que très rarement, et nombreux totonacs, pas Salvador qui m'avait amené à cette grotte, mais nombreux totonacs disent aujourd'hui, oui, le chemin d'Anata Kelchinin, bon, on chasse plus trop aujourd'hui, donc ça c'est le passé, c'est des histoires des grands-pères. Le chemin d'Anata Kelchinin, quelque part, est presque maintenant un simple souvenir de la tradition orale. Donc on voit bien comment l'espace de la forêt, déjà, on voit en Gésine une espèce de processus, si on veut, de naturalisation de la forêt, en tout cas dans le sens où les espaces résiduels de forêt non cultivée deviendraient un vrai espace sauvage, dans le sens où ils ne feraient l'objet d'aucune tutelle. Ils ne seraient plus socialisés par l'esprit maître de la forêt, par la présence de l'esprit maître de la forêt, par la présence de l'esprit maître des animaux, par exemple. Voilà.